Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous, c'est un reportage au cœur de deux maternités du Cameroun que nous vous proposons aujourd'hui dans Priorité Santé. Des rencontres, des initiatives, des paroles captées par Charlie Dupio. Et par exemple, ne pas mourir en donnant la vie, c'est la devise de la sage-femme. Dans cette chanson dont la mélodie vient conclure chaque causerie, les sages-femmes de la plus grande maternité de Yaoundé, le CAS, donnent le ton. Au Cameroun, sur 1000 naissances vivantes, 47 enfants n'atteignent pas l'âge de 5 ans. 438 femmes sur 100 000 meurent pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches. Alors, en rencontrant des soignants et des femmes, nous allons comprendre à quelles difficultés les maternités font-elles face pour continuer à réduire cette mortalité maternelle et infantile. Cerner ce qui peut être mis en place très concrètement pour améliorer la prise en charge des mamans et de leurs nouveau-nés. Ce reportage long format sur la santé maternelle et infantile au Cameroun, Charlie Dupio l'a réalisé dans deux maternités, l'une des plus grandes de Yaoundé, appelée le CAS, et une structure beaucoup moins fréquentée, l'hôpital Saint-Luc, à Mbalmayo, à 50 km au sud de la capitale. Santé maternelle et infantile au Cameroun, un reportage réalisé avec le concours de la Fédération hospitalière de France, soutenu par l'Agence française de développement. Charlie Dupio, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Alors vous nous emmenez d'abord dans l'une des plus grandes maternités de Yaoundé. On la surnomme le CAS.
Oui, CAS pour Centre d'animation sociale et sanitaire. C'est une structure privée, catholique. Les sages-femmes et les infirmières accoucheuses décrivent cet endroit comme une usine à fabrication de bébés. Chaque année, près de 4000 accouchements y sont réalisés. Karine Gnassa, major responsable des sages-femmes de la maternité, nous accueille. Et vous allez l'entendre, elle est assez occupée.
On se prépare à faire un accouchement gemellé.
Des jumeaux.
Des jumeaux, oui, des jumeaux. La maman vient juste d'arriver et elle arrive à dilatation complète. Bon.
Ah, ça revient.
Je suis là. Regarde, écoute-moi. Tu sais que là, c'est toi qui as le plus gros travail à faire. Tu comprends?
C'est ça, maman.
Je sais. Regarde, mets les mains ici.
Ici, non?
Oui, c'est ça. Tu m'as dit que tu as 3 enfants, donc c'est le quatrième. Ah, Ernestine, il faut que tu t'apprêtes bien. Elle va bloquer le deuxième, tu comprends, non? Pour qu'il ne change pas de position. Je suis là pour t'aider. Tu collabores aussi, non? Le Seigneur va t'aider. Il t'a même déjà aidé. Tu arrives à l'hôpital, dilatation complète. Tu as tout fait le travail à la maison.
Depuis le matin,
tu as supporté. Nous, on t'attendait ici. Tu as supporté. On y va. On y va. Menton sur la poitrine. On y va. Très bien. Très bien. Continue. Vas-y, bravo, vas-y. Tu as trouvé les prénoms des enfants. La fille, c'est qui? Manuela. Et le garçon? Manel. Non, Manel, je ne connais pas. C'est un nom biblique. On va chercher la signification après, non? Parce que tu peux dire que c'est un nom biblique comme ça, alors qu'il était truand, hein? C'est toujours... Tu sais que... On y va, on y va, on y va. Vas-y, très bien.
Il commence à sortir là.
Allons, 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 ne t'arrête plus. Tu es brave, papier, Jenny. Calme-toi, 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 calme-toi. Ne pousse plus, respire. Très bien, très bien. Il est en train de sortir.
Vous sentez sa tête là?
Oui, oui, la tête est déjà sortie, les yeux sont ouverts.
Il ferme les yeux, il ouvre les yeux.
Très bien.
Il est sorti.
Bravo. C'est la fille. Elle a dit que la fille était Emmanuelle. Manuela. Allez. On veut t'entendre. Bienvenue. Manuela. Manuela est bienvenue.
Et là, Ernestine, vous vous contenez le deuxième qui attend de sortir? Vous avez la main sur le ventre?
Oui, non. Là, je bloque.
Pour éviter qu'il change de position, Parce que souvent, comme il y a assez d'espace, quand dans une grossesse gemelle, il y a assez d'espace, donc quand tu sors le premier, le deuxième a tendance à vouloir changer de position.
Qu'est-ce que vous mettez la main là, Karine?
Oui, je cherche la présentation du deuxième. Et là, je n'ai rien. Respire, maman. Parce qu'on va faire ce qu'on appelle la manœuvre par version interne.
Oui, quand on n'a pas de présentation, on cherche le pied. Dès qu'on a le pied, on tire.
Ah, vous tirez par le pied après?
Oui.
Il ne nous donne pas la tête. Donc, quand il ne nous donne pas la tête comme ça...
Bienvenue, jeune homme.
Oh, sorti.
Merci. Laisse-le sortir par les pieds.
Oui.
Coucou. C'est un petit garçon, le deuxième. Et qu'est-ce que vous avez fait pour réussir à le faire sortir alors? Vous l'avez attrapé?
J'ai attrapé le pied et j'ai amené vers l'extérieur. Généralement, quand tu as le pied, le reste du corps suit. Il a décidé de ne pas sortir par la tête. Parce qu'en principe, dans une grossesse gemellaire, au moment de l'accouchement, les deux peuvent venir en céphalique. Donc les deux peuvent venir par la tête. Comme un peut décider de venir par la tête, l'autre, il ne te donne pas une présentation. Comme celui-ci. Comme il ne nous a pas donné la présentation, tu es obligé de le chercher.
Et c'est physique, hein? Moi, je vous voyais tourner comme ça, vous accrocher.
C'est la manœuvre. C'est une manœuvre, donc ça demande un peu d'énergie. C'est vrai que quand tu as un accouchement gemellé, tu pries toujours que le deuxième vienne par céphalique. Parce que là, c'est aisé, c'est facile. Parce qu'il y a des gens qui échouent la manœuvre.
Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là?
Oui. Imaginez-vous, une femme vient, elle accouche le premier par voie basse, le deuxième est fini par césarienne. C'est un peu dommage.
Tu as bien fait de venir ici. Est-ce que tu allais dans un centre de santé?
Ce n'est pas sûr que tu allais t'en sortir. Tu as vu, le deuxième bébé n'est pas venu normalement. On allait le chercher.
Parce que tu dis que c'est lourd. Je me suis avancée, j'ai cherché la voiture dépôt.
Parce que le papa ne voulait pas vous emmener ici?
Il voyait que c'était lourd, la distance. Il m'a dit qu'il y a le centre ici à côté, je ne veux pas moi. J'ai dit que non.
Il est accouché ici, à la maternité, à la grande maternité d'Yaoundé. Oui. Là, vous ventilez le bébé? Vous ventilez
oui,
le premier?
On ventile le premier parce qu'il est devenu un peu cyanosé et il ne ventile pas bien. Donc, on est obligé de ventiler.
Cyanosé, qu'est-ce que ça veut dire?
Cyanosé, ça veut dire que les extrémités deviennent bleues.
Ah oui, là, on voit que ses pieds sont en train de devenir bleus.
Oui, c'est bleu. Donc, c'est un manque d'oxygène. Donc, avant de faire tout, on commence par la ventilation.
Vous lui posez une sorte de masque?
Un masque, oui. Et on ventile.
Et vous, vous êtes? Je vous laisse vous présenter.
Moi, c'est Ibikié Ernestine. Je suis infirmière accoucheuse. On fait les accouchements tous les jours, même les accouchements gemellaires. C'est un métier noble parce que tu as la joie quand tu fais sortir les enfants, quand tu fais l'accouchement. Tu vois une maman qui vient de pleurer là, après elle commence à sourire quand elle a déjà expulsé son enfant. Ça donne la joie parce que quand tu perds un enfant, ça te fait mal. Tu n'as même pas le courage d'aller vers la maman pour lui annoncer le décès de son enfant. Et quand on perd un enfant comme ça, on se dit, on est culpabilisé. Hein? On se dit que, est-ce que je n'ai pas bien fait mon travail? Surtout quand l'enfant meurt, peut-être il est venu, il vivait. Vous entendez vraiment les battements du cœur de l'enfant, mais après un certain temps, vous n'avez plus les battements du cœur. Ou bien quand l'enfant sort, ou bien peut-être l'expulsion a été longue. Ça dépend aussi. Il y a beaucoup de causes. Il y a aussi les mamans qui ne suivent pas bien leur consultation prénatale. Parce qu'il y a, peut-être que tu peux avoir une infection et si tu n'as pas été suivi après l'accouchement, il y a les enfants qui auront les infections. Une maman peut faire un paludisme. Le paludisme cause des décès. Il y a beaucoup de causes, beaucoup de causes.
Alors, beaucoup de causes qui expliquent la mortalité maternelle et infantile dans cette maternité du CAS de Yaoundé. Et c'est là que vous avez donc assisté à la naissance de jumeaux Charlie.
Oui, et tout de suite après l'accouchement, la sage-femme major Karine Gnassa a lavé sa blouse rose dans l'un des deux éviers de la salle. Elle dit qu'il le faut puisqu'elle n'a qu'une seule tenue de rechange et c'est à elle de s'en occuper. Alors dans cette salle d'accouchement très vétuste, on voit deux tables radiantes sur lesquelles sont pesées et habillées les nouveau-nés. Et puis il y a aussi trois tables d'accouchement, hein, c'est là que les femmes s'allongent pour accoucher. Mais ces trois tables ne sont pas suffisantes pour Karine Gnassa, il en faudrait au moins une quatrième. Elle nous explique tout ça.
Bon, notre salle d'accouchement, par rapport au nombre de naissances qu'on fait par an, elle est petite. Parce qu'il nous arrive souvent de faire des accouchements dans la salle de travail, sur le lit.
Dans la salle où normalement on a les contractions.
On a les contractions, oui, justement. Il y a des moments où on a beaucoup d'accouchements, comme actuellement. Avril, mai, juin, ce soit notre haute saison.
La haute saison des bébés.
La haute saison des bébés, oui. Donc, ce qui fait que souvent, on se retrouve en train de faire des accouchements en salle de travail.
Alors là, on quitte la salle d'accouchement.
Donc, ici, c'est notre salle, la salle de travail. Vous voyez, actuellement, elles sont quatre en travail qui attendent. Et dans cette salle, nous avons quatre lits avec des toilettes. En fait, en salle d'accouchement, l'avantage qu'on a, c'est que la table gynécologique est haute. Alors qu'en salle de travail, c'est sur des lits. Ce qui fait que la sage-femme est obligée de se baisser. Imaginez-vous, on ne peut pas faire une manœuvre d'un deuxième jumeau là-bas. C'est presque impossible parce que le lit est très bas. On n'est pas à l'aise.
Et on voit effectivement, on voit que les lits sont bas.
Tu es carrément courbé comme ça pour faire l'accouchement en salle de travail. Et on a toujours besoin de matériel parce que nous, actuellement, les tables, je suis au cas, ça fait quoi, peut-être presque 15 ans. C'est les tables que j'ai trouvées.
Ce sont les mêmes tables de travail qu'il y a 15 ans.
C'est le travail que j'ai trouvé. Donc vous imaginez que c'est du matériel qui a besoin d'être rénové. En termes de personnel, le nombre de patientes qu'on a, ça ne suffit pas. Parce qu'on a des équipes de trois.
Trois sages-femmes en tout.
Oui, trois, en salle de naissance. Parce qu'on est dans un service, on est dans un système de roulement.
Et idéalement, il en faudrait plus?
Oui, pour notre maternité, il en faudrait plus. Pour un accouchement, il faut au moins deux personnes. Si on pouvait nous ajouter une sage-femme de plus, ça serait mieux. Parce que quand il y a une césarienne, on te diminue une sage-femme qui doit aller réceptionner le bébé.
Donc la sage-femme va partir accompagner le gynécologue
pour réceptionner le bébé. C'est la sage-femme qui reçoit le bébé au bloc pendant la césarienne. Et quand tu as une journée qui a quatre césariennes qui s'enchaînent, ça veut dire que d'emblée, il y a une sage-femme qui sera seulement en train de faire les navettes, monter avec la patiente, réceptionner le bébé. Au bloc opératoire, revenir enregistrer et repartir, ce qui fait qu'elle ne fait plus partie de l'effectif puisque les césariennes s'enchaînent. Et vous restez deux. Oui, maman. Ça fait comme ça. Ce n'est pas bébé. On t'a examiné à quelle heure?
Depuis 5 heures du matin.
Depuis 5 heures du matin. Tu sais qu'on ne t'a pas examiné parce que tu n'étais pas encore entré en travail vraiment. Tu comprends, non? Donc, si tu ressens comme ça, il faudrait que tu ailles sur la table, on va t'examiner. Sûrement, le travail est en train de commencer.
Sans la pression.
Sans la pression, non? Donc, elle attend les jumeaux.
Encore des jumeaux. Ça va, tout va bien? Vous n'avez pas trop mal?
Un peu. Ça n'a pas encore vraiment commencé. Quand ça va commencer, ça se ressent. Donc, on a deux salles de travail. On a celle-ci. C'est une salle de travail pour les femmes en phase latente. Donc, celles qui sont venues et que le travail n'a vraiment pas commencé, elles peuvent rester ici.
Donc, à côté de la salle d'accouchement, il y a une première salle de travail. Et là, on est allé un petit peu plus loin et il y a une deuxième salle de travail.
Oui, il y a une deuxième. Et justement parce qu'avant, elle n'existait pas. C'est quand on s'est retrouvé avec deux, trois, quatre femmes sur un lit qu'on était obligé de réduire ça et de transformer en salle de travail pour celles en phase latente.
Il y avait trois femmes avant dans la seule salle de travail sur un lit?
Oui. Il y a des fois quand on peut faire 12, 13 accouchements. Pendant la période de service, ça veut dire pas en 24 heures, hein, de 8 heures à 17 heures, ça peut arriver qu'on fasse même 12. Et quand vous avez 12 femmes qui accouchent, elles sont où? Là, dans la salle de travail où on a 4 lits. Donc ça peut faire 3 femmes sur un lit. Donc c'est pour ça qu'on a créé celle-ci, pour essayer d'améliorer le confort de ces mamans.
Ici au Cameroun, la mortalité maternelle et infantile reste un peu élevée par rapport à d'autres pays en développement. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer selon vous ?
Bon, actuellement, on est vraiment dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, vraiment dans la lutte. Ce qui fait qu'on a mis en place un système de réseau. Parce qu'avant, une femme pouvait aller accoucher dans un centre de santé. Le centre de santé où elle va accoucher, il n'y a même pas d'ocytocine. Sans ocytocine, tu peux pas faire un accouchement. La femme peut accoucher, elle saigne, elle se vide et tu ne peux rien faire.
Parce que l'ocytocine permet notamment...
de réduire l'hémorragie, de prévenir l'hémorragie du postpartum. Donc, on a donc mis ce système en place, ce qui fait que le ministère s'est arrangé à donner à chacun son paquet d'activités. Donc, tu es centre de santé, tu ne peux que faire les consultations prénatales, par exemple. Tu ne peux pas faire d'accouchement. Quand tu as la femme qui arrive à terme, tu réfères vers l'institut sanitaire qui peut faire des accouchements.
Mais il y a quand même des femmes qui disent qu'elles ont accouché déjà dans des centres de santé.
Bien sûr, elles continuent à aller dans des centres de santé puisque c'est moins cher. Il y a certaines qui ont la chance, ça se passe bien. Mais quand ça se passe mal, c'est trop tard pour en parler puisqu'elles décèdent. Parce que généralement, dans les centres de santé, on n'a pas, le plateau technique n'est vraiment pas adéquat. Il manque même déjà le personnel infirmier qui est spécialisé dans le domaine. Souvent, tu n'as même qu'un aide-soignant, dont celui qui avait le brevet, qui a fait une année de formation. Regardez-nous, ça ne fait pas longtemps qu'on a des gynécologues dans la maison. Vous imaginez, vous ne pouvez pas fonctionner dans une maternité comme ça sans avoir un gynécologue permanent.
Ça fait combien de temps qu'il y a des gynécologues ici ?
Quand je suis arrivée ici en 2005, j'ai trouvé un gynécologue qui était vacataire, un seul. Il était vacataire, donc il venait pour gérer les situations et il repartait. Parce que les vacataires, c'est ceux qui viennent et qui repartent vers leur structure sanitaire. Mais depuis 2 ans, on a 2 permanents maintenant. 2, oui.
Et comment vous faisiez en cas de césarienne ?
On référait. À l'époque, on référait nos patients à l'hôpital central. Quand il y avait une indication de césarienne, on allait à l'hôpital central.
Et qu'est-ce qui reste à améliorer alors dans cette lutte contre la mortalité maternelle et infantile ?
Ce qui reste à améliorer, qu'il y a une maternité, tu dois avoir un bloc opératoire, tu dois avoir un laboratoire qui fonctionne 24 heures sur 24, tu dois avoir une banque de sang. Quand tu as tout ça réuni, tu peux facilement lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Mais quand un te manque, le temps d'aller chercher, ça peut être comme nous actuellement, notre banque de sang n'est pas encore opérationnelle. Donc quand on a besoin de sang, on doit aller chercher. Et ça, c'est une difficulté. Parce que tu peux chercher, tu fais des banques de sang. Tu ne trouves pas un sang compatible pour le patient que tu as, toi, dans ta société sanitaire, qui est en danger.
Notamment après une hémorragie femmes qui ont donné la vie. Touché.
Voilà, après une hémorragie postpartum. Vous imaginez, comme tout récemment, il y a 2 jours, on a reçu une femme qui avait une thrombopénie. Donc elle avait les plaquettes qui étaient très bas. Donc elle n'avait pas de facteur de coagulation. Elle arrive chez nous presque sur le point d'accoucher. Tu ne peux plus la référer vers une structure sanitaire qui a la banque de sang parce qu'elle va accoucher, l'accouchement est imminent. Maintenant, tu commences à chercher des concentrés plaquettaires. On a fait presque toutes les banques de sang. On n'a pas trouvé des concentrés plaquettaires. On était obligé d'envoyer des gardes malades de la patiente qui avait le même groupe sanguin qu'eux dans une banque de sang la plus proche, qui ont prélevé le sang. Ils se sont rendus compte que le sang était compatible et on nous l'a renvoyé. La poche est arrivée, comme on dit, presque de justesse. La femme venait d'accoucher et on avait déjà des filets de sang qui arrivaient sans coaguler. Et dans les cas pareils, il n'y a que du sang fraîchement prélevé qui pouvait gérer la situation. Vous voyez que si on n'avait pas eu cette personne compatible, on aurait pu perdre la dame. C'est vrai que quand tu arrives à sauver une patiente, comme on les appelle, c'est des échappées belles. Mais en même temps, tu te dis, et ça n'avait pas marché.
Cette patiente échappée belle, hein, comme on vient de l'entendre, dont parle la sage-femme Karine Nassa, était atteinte de thrombopénie, Charlie.
Oui, alors c'est une anomalie du nombre de plaquettes dans le sang qui peut survenir pendant la grossesse. Et en fait, quand le nombre de plaquettes est trop bas, l'organisme n'est plus en mesure de former des caillots pour contrôler les saignements, d'où le risque vital quand la patiente perd du sang après un accouchement.
Alors, vous êtes rendue dans cette maternité, Charlie, avec plusieurs membres de l'équipe d'un hôpital français. Il s'agit du CHU de Grenoble.
Oui, alors, dans le cadre d'une coopération qui a démarré en 2020 entre donc ce CHU de Grenoble et cette structure, le CAS, à Yaoundé. Une coopération sous forme de transfert de compétences avec de nombreuses missions sur le terrain. Alors, il y a plusieurs axes autour de cette coopération. L'accompagnement managérial des cadres supérieurs de santé et des majors. Et puis, un travail de fond avec les soignants, notamment au niveau de l'hygiène, de la prise en charge de la douleur et bien sûr de l'accompagnement de la mère et de l'enfant. Plusieurs améliorations ont été suggérées, comme par exemple des travaux pour déplacer le bâtiment de la maternité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le bloc opératoire, donc là où on opère notamment pour les césariennes, eh bien ce bloc est situé dans un autre bâtiment que celui de la maternité. Donc pour y accéder, il faut sortir de la maternité, tourner à gauche, monter une double passerelle avec un sol qui n'est pas lisse. Tout ça en poussant un chariot très lourd. Alors en marchant sans chariot, on compte déjà 3-4 minutes pour passer d'un endroit à l'autre. Alors que pour une césarienne d'urgence, il faut compter 15 minutes maximum en comptant le temps d'induction de l'anesthésie générale qui peut prendre déjà 5 à 10 minutes. Alors suite aux recommandations de l'équipe française du CHU de Grenoble, des travaux devraient être réalisés dans les prochains mois pour faire migrer la maternité à côté du bloc opératoire.
Comment améliorer la santé maternelle et infantile au Cameroun? On écoute la suite de votre reportage dans deux maternités différentes, Charlie Dupio. Mais d'abord, Franck Biyong, Liwa Yawesh. Priorité santé sur RFI, la suite du reportage long format de Charlie Dupio consacré à la santé maternelle et infantile au Cameroun, où sur 1000 naissances vivantes, eh bien, 47 enfants n'atteignent pas l'âge de 5 ans. Et Charlie, prévenir, œuvrer pour la santé maternelle et infantile, ça commence dès le début de la grossesse.
Oui, avec des causeries d'accueil. Au CAS, l'une des plus grandes maternités de Yaoundé, elles ont lieu 2 matins par semaine avant le début des consultations prénatales. Aujourd'hui, c'est Solange Changa qui anime cette causerie. Elle est infirmière accoucheuse depuis 20 ans dans cette maternité et pour elle, elle le dit, l'ignorance tue. Alors il faut informer les femmes. Assise face à elle, il y a une trentaine de futures mamans qui l'écoutent attentivement. Et avant de commencer, Solange Changa leur distribue à toutes un papier. C'est en fait la liste de tous les examens recommandés aux femmes enceintes, avec à chaque fois le prix associé. Et elles vont lire ce document ensemble.
Bon à savoir pour les femmes enceintes. En un, on a quoi ? Consultation prénatale pour la première fois, les nouvelles. Donc comme vous êtes là aujourd'hui. Après aujourd'hui, vous ne serez plus nouvelles, non ? Ça coûte combien ?
1 000 francs.
Voilà. Mardi et jeudi, et c'est 1 000 francs. C'est un pacte qu'on est en train de signer. En plus, il y a le test de HIV, n'est-ce pas ? Le VIH est trop important pour la femme enceinte. Vous savez ça, non ? Toutes, vous passez là, on vous pique le doigt. On commence par ça. Pourquoi ?
Pour la santé du bébé.
Pour la santé du bébé, comme elle dit.
Solange Changa, vous êtes infirmière accoucheuse et c'est vous là qu'on entend mener cette causerie. Vous insistez beaucoup sur le test du VIH.
Oui.
Pourquoi c'est important de faire ce test-là ?
Le test du VIH est très très important parce que pour éliminer la contamination. Donc si déjà si elle est infectée et qu'elle ne fait rien, elle va infecter le bébé et prendre 2 personnes en charge n'est pas facile. Ok, on continue, on est ensemble. L'examen. On a la goutte épaisse ou TDR. On recherche quoi par là, les amis ? Le paludique, qui est très, très dangereux pour la femme enceinte. Très, très dangereux. C'est le premier ennemi de la femme enceinte. À cause de quoi je dis toujours ça ? Parce que quand on a le palu, on fait la fièvre, non ? La fièvre, est-ce que l'enfant supporte la fièvre ? Vous avez derrière vous un poisson qui reste dans l'eau chaude. Si l'eau la change de température, vraiment, ce n'est plus bien pour lui. Et vous-même, vous sentez des fois quand vous avez la fièvre. Il bouge beaucoup, non ? Tout, il se bat. Le poisson ne supporte pas l'eau chaude. Vous allez faire la fièvre. Le bébé, si c'est une petite grossesse, vous allez avorter parce qu'il ne pourra plus, supporter. Un bébé qui a un niveau de l'accouchement prématuré ou bien même un mort-né. Donc, évitons cela. Vous comprenez ? Évitons cela. D'abord, qu'il y a la prévention du paludisme qu'on vous donne ici. 3 comprimés.
Ça, c'est pour la prévention.
La prévention. Maintenant, si elle a le palu, on la prend en charge, on l'hospitalise. Parce que tout palu pour la femme enceinte est considéré comme un palu grave. Donc, dès qu'on fait l'examen de palu, là, on sent que elle a le, c'est positif, on l'amène là-bas, on l'hospitalise. 2-3 jours avant de l'envoyer au quartier.
2-3 jours pour être traité,
oui,
pour son palu.
Oui, la suite est continuée à la maison.
Et là, il n'y a pas de transmission.
Il n'y a pas. Il n'y a vraiment pas. À l'accouchement, donc, on lui demande de se coucher dans une moustiquaire imprégnée.
Et c'est important hein, quand on sait qu'une des grandes causes de mortalité infantile, c'est le paludisme.
Le paludisme, oui. Oui, on lutte vraiment contre le paludisme. On lutte. Les moustiquaires, même, on leur donne ici. Hein. Vous n'avez pas vu des femmes sortir avec des moustiquaires, là hein?
Si, j'en ai vu quelques-unes.
Oui.
C'est gratuit ?
Oui, c'est le ministère qui envoie, c'est gratuit. Sauf que avant on donnait à toutes les femmes. Après, une autre est venue du ministère qu'on doit donner seulement à celles les premières de 16 semaines en descendant.
Ah, celles qui sont enceintes de moins de 16 semaines ?
Oui, 16 semaines en descendant.
Et après, on ne peut plus avoir une moustiquaire ?
On ne donne plus. C'est une chose qui nous dérange aussi. Parce qu'avant, nous, on donnait comme ça. Maintenant, après, on dit que non, c'est pas ça. Alors que tous peuvent faire du palu. Ok, il y a des questions. La causerie du premier jour, les mardis et les jeudis, dure un peu. Parce que c'est votre premier contact et on doit vous expliquer tout pour votre grossesse. Des questions maintenant.
Quand on se retrouve, on a fait toutes les visites, l'échographie, tout est normal. Mais à la salle d'accouchement, il n'y a pas de problème, on te dit césarienne.
Oui, une césarienne parce que peut-être le travail n'a pas avancé. Mais vous allez voir la maman qui va insister qu'on accouche par voix basse. Un travail qui n'avance pas, le bébé commence à souffrir, on va le laisser parce que vous devez accoucher par voix basse.
Moi, c'est Mélissa. Bon, j'ai 27 ans, j'ai 4 enfants. Actuellement, je suis enceinte de mon 4e enfant.
Vous assistez à cette causerie d'accueil là, au CAS, à Yaoundé. Vous êtes enceinte de combien ?
Je suis enceinte de 7 mois.
Et comment se sont passées vos 3 premières grossesses et vos 3 accouchements ?
Bon, mes 3 premières grossesses se sont bien passées. Mon premier enfant, j'ai accouché une fille. Le deuxième, un garçon. Le troisième, un garçon. C'est toujours dans ce centre que j'ai accouché. Et on te met à jour. Et c'est mieux pour le bébé. On essaye de consulter la mère pour voir si l'enfant va bien. On vous pose beaucoup de questions pour que la santé de l'enfant soit à jour. On essaye au maximum d'essayer de faire les examens prioritaires, quoi. Parce qu'on ne peut pas aussi dire qu'on va tout faire, parce que les moyens peuvent nous faire défaut. C'est pourquoi, quand on arrive, on pose notre souci, que bon, voilà, j'ai telle somme, quel examen vous me conseillez le plus? Bon, l'infirmière va examiner et te dit que bon, voilà, il faut faire tel examen. On va juste faire les examens qu'on pourra. Le reste, on verra.
Et quel travail vous faites?
Bon, pour l'instant, je suis étudiante. Je suis étudiante en comptabilité. Mon mari, il travaille à Copol, la boulangerie. Mais on essaie de joindre les deux bouts parce qu'on ne va pas croiser les bras. Bon, pour le budget, il y a d'abord le premier budget pour les consultations, donc quand tu pars à l'hôpital. Donc, il peut prévoir aussi même 30 à 40 000. Déjà qu'il faut faire des examens, s'il y a peut-être les choses à acheter, les médicaments.
Donc 45 à 60 euros pour toute la grossesse.
Voilà, c'est ça, exactement. Il y a l'autre budget pour l'accouchement. Quand j'irai accoucher, il faut prévoir au moins ces 50 000 de côté.
C'est l'équivalent de 75 euros.
Voilà, c'est ça. Si c'est un césarien, ça va déjà au-delà des centaines de mille.
100 000, ça peut aller jusqu'à 150 euros pour la césarienne.
Évidemment, oui. Pour la césarienne, ça coûte cher.
Et là, vous avez déjà commencé à mettre de l'argent de côté ?
Bon, pour l'instant, non, parce que les temps sont un peu compliqués chez mon mari, donc c'est pas évident. On doit se battre.
Voilà, vous savez que quand vous venez ici, c'est pour qu'on vous donne les bons bébés, non ? Les bons bébés, c'est ça que vous venez chercher chez nous. Les bébés en santé. Le gars qui est derrière là-bas, qui vous a envoyé, même comme il boit les bières là-bas en attendant, il attend quoi ? Le bébé et... On doit lui donner 2 personnes, son bébé et, sa... et la maman, pas une. On va donc chanter.
Ne pas mourir en donnant la vie, ne pas mourir. Bébé, sa maman, chaque papa, bébé, maman.
Bravo, bonne journée à vous.
Merci. À chaque maman, son bébé, à chaque bébé, sa maman, à chaque papa. Bébé et maman.
Voilà, la chanson rentre vite dans la tête. Solange Tchanga, l'infirmière accoucheuse, la chante après chaque causerie.
Allez, on va s'éloigner un peu de la capitale, Charlie.
Oui, on va rejoindre la maternité de l'hôpital Saint-Luc à Mbalmayo, à 1 heure de route de Yaoundé. Il existe aussi un accord de coopération entre cet hôpital et le CHU de Grenoble depuis 2016. Chaque année, 450 accouchements ont lieu ici, dans cette petite maternité. Donc c'est presque 10 fois moins qu'au CAS de Yaoundé. Ici aussi, bien sûr, on mène des consultations prénatales qui restent essentielles. On va rentrer dans le cabinet de Florence Faume, infirmière en santé de la reproduction, et elle accueille une jeune future maman.
Bonjour Cindy.
Bonjour madame.
Vous venez pour la consultation prénatale?
Oui, la deuxième.
Mm-hmm. Nous avons son carnet, Et nous avons en face de nous une jeune dame qui vient pour première grossesse, elle vient pour sa deuxième consultation prénatale.
Et là, une étudiante infirmière prend sa tension. Ça va, ça ne vous sert pas trop ?
Non, ça va.
On lui a mis le brassard pour prendre la tension artérielle et la tension est normale pour le moment. Nous allons continuer avec l'aspect obstétrical, c'est-à-dire on doit prendre la hauteur utérine, la circonférence abdominale, le début du cœur fœtal. Donc c'est la suite de la consultation. Et on l'a fait de l'autre côté.
De l'autre côté du paravent.
Oui.
Là, vous vous allongez sur la table.
Bonjour. Tu vas t'allonger, tu replies le pied. On doit prendre la hauteur utérine et la circonférence abdominale.
Donc là, vous prenez un mètre et là, vous faites le tour du ventre. Ça, c'est la circonférence abdominale.
Oui. Et nous prenons le bruit du cœur fœtal. J'ai le Doppler et la sonde est là. Vous suivez avec moi les bruits du cœur fœtal. Les bruits normaux varient entre 120 et 160 battements par minute. Là, nous sommes à 137. S'ils sont inférieurs à 120, c'est qu'il y a un problème. S'ils sont supérieurs à 160, c'est qu'il y a un problème.
Donc là, tout va bien.
Tout va bien. Tout va bien. Pour la petite, tout va bien.
Vous aviez déjà entendu le cœur du bébé ?
Oui.
Vous êtes enceinte de combien de mois ?
4 mois.
Vous commencez à avoir un petit ventre.
Je vais vous piquer. C'est votre deuxième dose de TD, vaccin contre le tétanos.
Donc là, nous sommes en train de finir avec notre gestante TD2. Elle doit recevoir sa deuxième dose de vaccination ce mois.
Vous allez vous faire piquer alors ?
Oui, je me fais piquer.
Et là, combien coûte cette consultation ?
C'est juste un kit. Là, elle ne paye rien pour la consultation. Nous avons un kit de 15 000 francs pour 9 à 10 examens. Tous les examens et les consultations prénatales.
Mais donc vous avez déjà payé 15 000 francs CFA ?
Oui, j'ai déjà payé.
Donc c'est l'équivalent de 20 euros. Mais j'imagine qu'il peut y avoir des suppléments en fonction d'éventuelles complications.
Effectivement, s'il y a des complications, d'autres examens en dehors de ceux qui ne dépendent plus de nous, là, elles payent. C'est ça. Bon, ma chérie, ça va, hein, tu as suivi les buts du cœur de ton enfant, tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais les médicaments qu'on t'avait prescrits au départ ont changé. Tu ne prends plus Afol, tu commences à prendre ce produit. 2 comprimés par jour. Je fais Cefol, 2 comprimés par jour. Maloxine, 3 comprimés en une seule prise, c'est pour prévenir le palu. Et tu commences au moins à prendre le calcium.
Vous lui rendez son carnet de santé.
Mm-hmm. Justement. Bon retour. Hein. Merci. Après, voici un souci particulier, tu reviens.
Au revoir.
Nous avons pris congé de notre patiente et on va se revoir avec elle le mois prochain pour être sûr que l'enfant doit arriver dans de bonnes conditions, qu'il n'y aura pas de problème.
Reportage au sein de la maternité de l'hôpital Saint-Luc de Mbalmayo, à 50 km de Yaoundé, où le personnel s'engage, comme ailleurs, pour la santé des mamans et de leurs bébés, pour éviter les morts inutiles.
Et on va retrouver la major de la maternité, Calixte Mbia, infirmière accoucheuse. Elle nous fait visiter la maternité, et notamment le service de néonatologie, appelé aussi salle des couveuses.
Bon, la salle de couveuses que nous avons aussi aménagée.
Donc là, on s'avance un peu vers le fond de la salle et on voit une couveuse.
Voilà, une couveuse. Je vais vous dire ici, notre couveuse, elle fait des miracles. Parce qu'on a parfois 2 ou 3 bébés qu'on va mettre dans cette même couveuse. On va passer du sens de la longueur qu'un bébé doit se coucher. On va mettre les bébés dans le sens transversal.
3 bébés, vous pouvez mettre là-dedans ?
Oui. Je sais que c'est très dangereux pour les infections nosocomiales, dont les infections intra-hospitalières, mais parfois on est à bout de force. On regarde l'état du nouveau-né qui ne respire pas bien. Nous n'avons pas d'ambulance. Nous aimerions évacuer. Quand on fait l'accouchement d'un prématuré, on aimerait évacuer. Mais quand on voit l'état du bébé, du nouveau-né, qui ne peut pas supporter le transport en commun. Nous n'avons pas une ambulance. Et quand j'ai dit ambulance, ça veut dire qu'un véhicule contenant un personnel soignant avec de l'oxygène, avec du matériel de réanimation. Comment faire pour évacuer ce nouveau-né? Faut-il l'évacuer pour qu'il aille mourir à moins de 10 km? Ou alors, est-ce qu'on peut pousser un bébé de côté et mettre l'autre pour que les deux bénéficient des soins dans la couveuse?
Les couveuses, en fait, ce sont comme des petites boîtes dans lesquelles on met un bébé, normalement, sur un petit matelas.
Ça permet de garder la température, de stabiliser la température d'un bébé.
Pour les bébés prématurés?
Les prématurés, voilà. Ça, c'est uniquement pour les prématurés. Nous en avions 3. Actuellement, 200 en panne. Dans notre doléance, c'est si on peut avoir l'approvisionnement en couveuse. On va faire comment?
On quitte la salle des couveuses et un peu plus loin, au rez-de-chaussée, je tombe sur un couple et ses jumeaux. Décidément, il y aura beaucoup de jumeaux dans ce reportage. Les deux parents ont l'air contrariés, alors je me rapproche. La maman me dit qu'elle s'appelle Madeleine et ses jumeaux André et Antoine. Et l'accouchement ne s'est pas passé comme prévu.
Pour moi, elle venait ici pour la césarienne. J'étais venue au village de Koeman.
Non, on prend la voiture à 3 heures du matin. On arrive ici à 6 heures, ou bien à 7 heures.
Donc ça met 3 à 4 heures pour venir.
C'est loin, c'est un peu loin d'ici. Et si on dit qu'on fait l'échographie, j'ai venu faire l'échographie ici. On me dit il y a les enfants sont mal couchés au ventre. On me dit qu'on va m'opérer. J'ai accouché, on m'a opéré. On m'a sauvé ici.
Ça fait combien de temps là que vous avez accouché?
Ça fait 2-3 semaines même.
Et vous avez eu ce qu'il faut pour payer la césarienne?
On a cherché l'argent. On a donné un peu. On reste ici pour ça, non?
Et alors vous êtes le papa, c'est ça? Vous êtes arrivé là?
Je suis bloqué là parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer tout ce qu'on m'a demandé.
Combien on vous a demandé?
On a demandé 180 000. J'ai d'abord donné 50 000 plus 35 000.
Donc en tout, vous avez donné 85 000 pour le moment.
Ils m'ont dit avant-hier qu'il me reste 109 000 francs à payer.
Et comment vous avez fait déjà pour réunir cet argent?
Au village, je demande à mes frères. Bon, les gens du village aussi donnent aussi ce cours. Ils cotisent, chacun donne 2500, des 3000, ça dépend.
Mais pour réunir 180 000, c'est...
Là, c'est difficile. Là, c'est difficile. Je suis au village, je travaille le cacao, les travaux du village en général. C'est ça.
Madeleine, vous travaillez?
Je travaille les chiens.
Arachide, les gens d'arachide. Quand on travaille, on vend la nourriture, bon, on mange aussi. On garde aussi une petite somme si quelqu'un tombe malade. C'est comme ça qu'on vit au village. Oui.
Et vous gardez combien, par exemple?
Là, ça dépend. Je peux garder même 10, 15 000 francs.
10, 15 000 francs, c'est 15, 20 euros.
Ça ne peut pas donner pour payer. Par exemple, ce qu'on peut demander à l'hôpital, on ne peut pas donner.
Et là, comment vous allez faire pour tout ce qui reste à payer?
Je vois encore ça difficilement pour trouver l'argent. C'est dur. Obligé de chercher un crédit pour payer. On ne nous laisse pas pour sortir. J'ai déjà envie d'aller au village, mais je ne sais pas si on peut me libérer comme ça sans que j'ai déjà tout payé. Je ne sais pas.
Quand j'ai rencontré ce couple, ils étaient déjà à l'hôpital depuis 3 semaines et ils n'avaient payé que la moitié de la somme. à côté de cette famille, une autre femme est assise et elle m'interpelle pour aussi me raconter son histoire. Elle a dû faire une césarienne en urgence, mais son bébé à elle est mort-né. C'était il y a presque un mois et elle non plus ne peut pas partir avant d'avoir payé la somme due. Alors elle se sent prisonnière et désespérée. Les soignants à qui j'ai parlé de ces deux situations me disent qu'ils attendent encore un peu que la somme soit payée, au moins en partie, en grande partie, et que sinon, ils vont probablement laisser partir ces familles, voilà, sans me donner vraiment plus de précisions.
Des situations très difficiles et délicates. Un grand merci à Charlie Dupiau pour ce reportage réalisé par Didier Bleu, Santé maternelle et infantile au Cameroun, avec le concours de la Fédération hospitalière de France, soutenue par l'Agence française de développement.
Et merci à l'équipe du CHU de Grenoble, en particulier à la coordinatrice Marie-Hélène Floussel.
Merci également bien sûr à toute l'équipe de l'émission, hein, Damien Roucou, Louise Kaledek, Talimpo. Et avant de se dire tout à fait au revoir, Tsi Panchak, Lonely.
Lonely, I'm so lonely, I got nobody to come home. It's Tsi Panchak. I'm so lonely, I got nobody to call. But don't mess up and let you walk away again. But this time is for real, cause you with another man. Now you go give me red card, so much never bullet. I thought we were special, yeah, I thought we had a thing. So when you gon' come back home, when you gon' call my phone, I'm missing you, my shady, oh. Make you know, leave me so. When you gon' come back home, when you gon' come my phone, I'm missing you, my shady, oh. Make you know, leave me so. Lonely, I'm so lonely, I got nobody to come. To me, I don't want me no slave, mommy. I am missing my horrible. I don't lost me a good thing, cause I did took eye for bad thing. Je ne parle pas bien français, oh, mais je suis désolé. When you gon' come back home, when you gon' come back home, I'm missing you, make me know, leave me so. When you gon' come back home, when you gon' come back home, I'm missing you, my shit. But you don't leave me so lonely. I'm so lonely. I got nobody to call my own. Lonely. I'm so lonely. I got nobody to call my own. Oh, Charlie's like a melody.
Et demain dans Priorité Santé, notre émission Questions de femmes, comme chaque vendredi, un médecin qui sera là pour répondre aux questions des auditrices. On parlera des maladies et troubles de la thyroïde, hypothyroïdie, hyperthyroïdie, quel dépistage, dans quel cas une chirurgie peut-elle être nécessaire. On se dit à demain, 9h10, temps universel, et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.